Bonsoir, soyez les bienvenus à l'écoute des RFI. Merci de nous rejoindre 20h30 ici à Paris, 19h30 en temps universel.
Sylvie Berruet.
À la une de cette édition, la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon les Nations Unies, au moins 700 personnes ont été tuées à Goma, 2800 ont été blessées lors de l'offensive des rebelles du M23 soutenue par le Rwanda depuis dimanche. Un bilan qui devrait s'alourdir selon Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. C'est une page qui se tourne et la fin de la présence française au Sahel. Une cérémonie officielle a eu lieu au Tchad, cérémonie en présence des autorités pour remarquer le départ des forces françaises du pays. Enfin, le groupe Trafigura ainsi que 3 personnes condamnées en Suisse pour corruption en Angola. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu a pris officiellement ses fonctions ce vendredi. Le général-major Évariste Kakule-Somo s'est installé dans la ville de Beni, au nord de la province. 3 jours après avoir été nommé par le chef de l'État, il a annoncé que Beni devenait temporairement le chef-lieu du Nord Kivu en raison de la présence à Goma du M23 et des militaires rwandais. Pauline Azidi.
La cérémonie s'est déroulée dans la cour de la mairie de Beni, où viennent d'emménager les nouvelles autorités du Nord Kivu, à plus de 250 km à vol d'oiseau de Goma. Une situation que le général-major Évariste Kakule-Somo n'a pas éludée dans son discours. « Mon bureau se trouve à Goma, je vais m'y installer le plus tôt possible », a-t-il prévenu. Dans sa déclaration, il a rendu hommage aux victimes tombées pour la patrie ces derniers jours dans les combats. Les civils, les militaires, mais aussi les Wazalendo, ces groupes d'autodéfense alliés de Kinshasa. Il a aussi évoqué son prédécesseur, mort les armes à la main, sur la ligne de front entre Goma et Sake la semaine dernière. Enfin, le nouvel homme fort du Nord Kivu a tenu à rappeler sa mission, reconquérir et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones soumises aujourd'hui à un régime barbare de terreur et de non-État. Fin de citation. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et selon les Nations Unies, au moins 700 personnes ont été tué à Goma depuis dimanche dans l'offensive éclair du M23 appuyé par le Rwanda. 2800 blessés ont été recensés, un bilan qui devrait s'alourdir selon Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Des chiffres basés sur une évaluation menée par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires entre le 26 janvier et hier. Et puis beaucoup d'habitants qui étaient restés terrés chez eux ont commencé à sortir à Goma. Ils tentent de retrouver malgré tout un semblant de normalité. Reportage de ces choses vues et entendues dans cette ville de l'Est de la RDC avec Amira Swilem.
Malgré une situation encore instable, ce chauffeur de moto-taxi de Goma a repris le chemin du travail. Mais les clients, eux, ne sont pas forcément au rendez-vous.
Ça se calme un peu, mais certaines personnes ont encore peur. C'est un calme précaire. Les clients sont moins nombreux parce qu'ils n'ont pas d'argent, et nous non plus d'ailleurs. On arrive tout juste à gagner de quoi nourrir la famille chaque jour.
Les combattants du M23 restent visibles dans la ville. Les habitants ont profité de l'accalmie pour sortir. Prendre des nouvelles d'un proche, faire quelques courses.
On n'a pas d'eau chez nous à cause des combats. Il n'y a pas d'eau à boire, pas d'eau pour préparer la nourriture, pour faire la lessive. C'est compliqué. Comme il faut laver les vêtements, nous sommes venus ici au lac. C'est la première fois que je sors et je l'ai fait en ayant peur.
Signe que la vie reprenait malgré tout, tout doucement, certaines lignes de transport avaient repris leur trafic.
Dans l'actualité également, Trafigura, le géant du négoce suisse condamné pour corruption. L'ex numéro 2 de la firme Michael Wainwright écope lui d'une peine de prison ferme. Jusqu'à présent, le géant du négoce avait échappé au procès en plaidant coupable pour corruption au Brésil ou encore aux États-Unis. Mais ce vendredi, le tribunal suisse a délivré un verdict tout autre. Alexis Bédu.
Tous coupables, les procureurs de la plus haute instance judiciaire suisse ont tranché. D'après eux, 5 000 millions de dollars de pots de vin ont été versés à Paolo Gouveia, un officiel angolais, en échange de contrats pétroliers. Trafigura est condamné à payer une amende de plus de 3 millions de dollars et à 146 millions de dollars d'indemnisation. Cela correspond au profit généré par les 9 contrats d'affrètement et de soutage litigieux obtenus entre 2009 et 2011. Mais surtout, le Britannique Mike Wainwright, ancien directeur des opérations de Trafigura, a été condamné à 1 an de prison ferme, 36 mois dont 14 fermes pour Paolo Gouveia. Il s'agit d'un signal fort selon le procureur général suisse, une première historique pour l'ONG Public Eye. C'est la première fois qu'un dirigeant d'une maison de négoce est condamné à de la prison ferme. Jusqu'à présent, en Suisse, seuls les intermédiaires ayant œuvré dans ces affaires de corruption impliquant des grandes sociétés de négoce étaient condamnés. L'avocat de Mike Wainwright annonce d'ores et déjà qu'il va faire appel.
Alexis Bédu, 20h35 ici à Paris, vous écoutez RFI. Au Sénégal, les familles de 79 personnes mortes lors des manifestations qui ont secoué le pays entre février 2021 et 2024 vont bénéficier de 10 millions de francs CFA d'assistance chacune. C'est une annonce de la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Diaye. Enfin, 2172 ex-détenus sous Macky Sall et recensés par l'Agence nationale des statistiques vont percevoir de leur côté une allocation de 500 000 francs CFA chacun. Vous écoutez RFI, direction le Tchad, où une cérémonie a célébré ce matin la fin de la présence militaire française dans le pays. 2 mois après la rupture des accords de défense, elle était organisée sur la piste de l'aéroport de la base d'Adji Kossé. C'est là d'où est parti hier le dernier avion français. Cérémonie en présence du président tchadien, Mahamat Idriss Déby, des représentants de toute la classe politique, ainsi que le corps diplomatique. Reportage Victor Moria.
Tout au long de son discours, le chef de l'État tchadien a mis l'accent sur la souveraineté, désormais, dit-il, pleinement retrouvée de son pays.
La souveraineté n'a jamais été un cadeau. Elle est une conquête, le fruit de luttes, de sacrifices et d'un engagement constant. Nos ancêtres ont combattu pour nous offrir cette liberté, pour que nous puissions vivre dans une nation indépendante, fière et respectée.
Face à l'ensemble des hauts personnages de l'État, des institutions régaliennes aux membres du Conseil national de transition, Mahamat Idriss Déby assure que le Tchad restera ouvert au dialogue avec la France.
En reprenant le contrôle total de toutes les bases militaires françaises établies dans notre pays, nous ne rompons pas nos relations avec la France, mais nous mettons un terme à la dimension militaire de cette coopération.
Comme un symbole de l'unité nationale voulu par les autorités pour l'occasion, les deux leaders de l'opposition, Albert Pahimi Padaké et Succès Masra, ont assisté à la cérémonie. Victor Morian Jamena, RFI.
En bref, en Ouganda, la Cour suprême a jugé ce vendredi inconstitutionnel le jugement de civils par des tribunaux militaires, ce qui ouvre peut-être une lueur d'espoir et une perspective favorable dans le procès pour trahison de Kizza Besigye, ancien candidat à la présidence. Les sports, le football, reconstruire une équipe féminine compétitive, voilà l'ambition du Tchad et c'est dans cet objectif que le tournoi Challenge pour la refondation du foot féminin se tient à N'Djamena depuis le 28 janvier. Et il y a urgence car à la mi-février, les Tchadiennes doivent affronter les Sénégalaises dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la CAN 2026. Nesta Yamgoto.
On veut à ce que chaque année ils organisent cette compétition pour que nous on développe nos talents quoi.
Un football féminin tchadien à reconstruire, comme le souligne la capitaine de l'équipe de la ville de Sar. Le dernier match de l'équipe nationale remonte à juillet 2023. Les Tchadiennes avaient été humiliées par l'Éthiopie 10-0 lors de leur double confrontation en éliminatoire de la CAN. Au pays, la Ligue de football féminin a repris avec du club cette année après 5 ans d'impasse. Redonner vie à cette discipline est l'objectif de ce tournoi actuel. Il doit se terminer lundi et permettra de détecter de nouveaux talents. Mais il faudra être patient, comme l'explique Dieudonné Ndiadoum, entraîneur de la sélection féminine de la province du Moyen Chari.
Une, deux parmi eux peut-être seront sélectionnés. Voilà, c'est l'avantage. Sinon là, le niveau franchement n'est pas top.
Élever le niveau moyen et bâtir une équipe nationale féminine l'une de ses noms renchéris, le directeur technique national, Omar Yaya.
Tous les représentants des ligues sont là, les joueurs sont là, donc c'est au staff technique de faire la meilleure sélection possible.
Le temps passe. Le Tchad dispose de moins de 3 semaines avant d'affronter le Sénégal aux éliminatoires de la CAN 2026 au Maroc. Nestayam Goto, Djamena, RFI.
RFI, 20h40 ici à Paris, 19h40 en temps universel.